Très-Ville BM. Paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Oh là 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 là, mes amis, l'heure est grave car le FBI a publié des documents sur Bigfoot.
Belle introduction en matière, effectivement, mais si, Bernard.
Mais si,
c'est exactement ça.
Mais s'il n'existait pas, là, le FBI n'aurait pas publié des documents sur Bigfoot.
Oh, Bernard, ne t'engage pas dans cette voie. Tu serais étonné de découvrir tous les sujets sur lesquels le FBI a enquêté au cours des ans. Écoute, à un moment donné, je te ferai une série de chroniques sur les enquêtes bizarroïdes du FBI.
Okay.
Et cette semaine, c'en est une, c'est cette histoire du Bigfoot. Bon, d'abord, faut le dire, le FBI, depuis l'avènement de la loi d'accès à l'information, rend public chaque année des milliers de documents concernant toutes sortes de sujets. Évidemment, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui sont, comme on dit chez nous, attelés à la tâche, donc ça prend du temps avant que ces documents soient rendus publics. Et parfois, ces documents sont publiés des décennies après les événements. Et c'est un peu ce qui nous concerne aujourd'hui. Et elle vient, en fait, cette demande, elle a été gérée à partir de 2017 par une demande citoyenne. C'est un type qui a écrit au FBI, évoquant la loi d'accès à l'information. Et il demande au FBI s'ils ont des dossiers, des documents concernant le Bigfoot, le Sasquatch. Donc, pour les auditeurs qui ne savent pas de quoi on parle ici, il s'agit d'une créature mystérieuse, mythique, qui vivrait, qu'on aurait observé un peu partout en Amérique du Nord, mais principalement sur la côte ouest canadienne et américaine. Les Américains l'appellent Bigfoot, au Canada on l'appelle le Sasquatch, mais il s'agit d'une créature là, plus ou moins mi-homme, mi-gorille, qui ferait à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Donc voilà, notre citoyen écrit au FBI demandant « Avez-vous des dossiers sur le FBI? » Et à son grand étonnement, le FBI répond que oui. Et il publie une série de documents qui nous ramènent au milieu des années 70. Alors, je te fais un peu le contexte de l'affaire.
Mais
donc,
oui.
On est en 1975, il y a le corps de génie de l'armée de terre des États-Unis, donc les Marines, qui publie un document qui s'appelle l'Atlas de l'État de Washington. Et dans ce document, c'est un petit document qui contient une centaine de pages, et là, on est surpris de voir à la page 53 de ce document, c'est un document public, là, à ce moment-là, en 1975, le document est publié, les gens peuvent se le procurer dans les librairies, dans des magasins, et bon, ce document évoque la faune et la flore de l'État de Washington, et curieusement, à la page 53, il y a un petit graphique qui parle il y a un graphique qui montre l'État et les lieux où aurait été observé le Bigfoot, et là, on le décrit comme étant une créature faisant peut-être partie de la faune de l'État de Washington. Et le plus étonnant, c'est qu'il y a une petite citation où on dit que le FBI aurait enquêté sur des échantillons biologiques, à savoir des poils de la créature, et n'aurait pas pu identifier l'animal en question. Alors, toujours suite à ce document-là, la publication de ce document-là, ben, le FBI a été sollicité. Et c'est un peu ce qu'on apprend dans ces documents rendus publics la semaine dernière. C'est qu'au lendemain de la publication de ce document, un individu du nom de Peter Burns, pour te le situer, Peter Burns, c'est un type qui s'intéresse beaucoup au Bigfoot. Il a participé à des expéditions dans l'Himalaya pour retrouver le Yeti, sur la côte ouest américaine pour retrouver le Sasquatch. Donc, en lisant ce petit document publié, Peter Byrne a écrit en fait au FBI pour leur demander quelle est cette histoire d'analyse d'échantillons biologiques. Et là, le FBI de lui répondre, c'est vrai que ça a été publié dans le document en question, mais nous, quand on fouille dans nos archives, on ne trouve rien de semblable. Alors, Peter Byrne de répondre à ça en prenant la balle au bon, en disant, ben, ça tombe bien, j'ai moi-même chez moi des échantillons du Sasquatch, alors j'aimerais que vous les analysiez.
Des poignées de poils, là.
Une poignée de poils. Et là, écoute, on découvre dans ces documents que la poignée de poils en question a été envoyée au FBI et qu'ils ont mobilisé une partie de l'équipe de l'identification judiciaire du FBI pour enquêter sur cette poignée de poils.
Et
à ton grand étonnement,
quoi?
Ça n'était pas des poils de Bigfoot.
Ben, c'était des poils de quoi?
C'était des poils de cerf, finalement, qu'on avait.
Des poils de cerf? Ah, oh, ouais, effectivement. Un vulgaire orignal, genre.
Voilà, donc c'est ça. On envoie les fameux poils envoyés au FBI et qui ont été analysés n'étaient finalement que des poils de cerf. Et donc, ce document, il dormait dans les archives du FBI depuis 1975-1976 et a été révélé seulement la semaine dernière avec cette demande citoyenne concernant le Bigfoot.
Moi qui pensais. Bon,
mais tu comprends, mais le FBI a enquêté sur des histoires d'ovnis, ils ont enquêté sur des mutilations animales, des histoires de fantômes, de combustion humaine spontanée.
Est-ce qu'ils ont enquêté sur le Saint-Suaire de Turin?
Non, pas du tout. Mais parce là, que c'est... Oui, c'est une histoire qui rebondit. Peut-être faudrait-il avoir l'accès au laboratoire du FBI pour arriver à avoir le fin mot sur cette énigme qui perdure depuis des siècles, en fait.
J'en parle parce que ça rebondit, le Saint-Suaire, là, l'histoire du Saint-Suaire.
Le Saint-Suaire, pour situer encore une fois les auditeurs, c'est une longue pièce de tissu qui fait à peu près 4,20 m de long sur 1,50 m de large. Elle est conservée dans la cathédrale, en fait, dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Turin, et on y voit un peu l'image fantôme d'un homme présentant toutes les marques de la crucifixion. Cet artefact, hein, cette relique est apparue au milieu du 14e siècle, aux alentours de 1350, et on la considère comme étant l'authentique linceul du Christ. Et elle est vénérée depuis des siècles. Or, je te rappelle que jusqu'en 1988, il n'y avait eu aucune analyse ou datation au carbone 14 sur l'artefact. Donc, on était partagé entre les fidèles qui croient qu'il s'agit de l'authentique linceul du Christ et les sceptiques qui soutiennent qu'il s'agit d'une fraude du Moyen Âge. Et voilà qu'en 1988, une analyse a été faite par trois laboratoires, un aux États-Unis, un en Angleterre et un autre en Suisse. Et ces trois laboratoires, à partir d'un petit échantillon, ont conclu que le tissu du suaire datait du milieu du 14e siècle. En fait, la date précise, la fourchette qu'on donne, c'est 1280 à 1380 à peu près. Donc, tu vois,
ça peut pas être le linceul du Christ en 1280. Là.
Voilà, il est beaucoup trop jeune. Et curieusement, il apparaît exactement, hein, selon cette datation carbone 14, on le situe exactement à l'époque où il apparaît en Europe, donc en 1350. Mais voilà que des scientifiques réunis la semaine dernière à Cantana, en Italie, ont analysé les données originales qui étaient conservées au British Museum depuis 1988. Et en faisant un nouveau calcul sur ces données, ils se sont aperçus qu'il y avait de très nombreuses anomalies dans les analyses réalisées en 1988. Il n'y avait pas, et je te cite le mot utilisé, c'est une inhomogénéité dans les résultats. Ils ont publié ça dans un périodique scientifique qui s'appelle Archaeometry, et ils remettent très sérieusement en question la datation de 1988. Selon eux, et encore une fois, ce sont des spécialistes, des statisticiens, ils ont regardé ces colonnes de chiffres, et selon eux, il y aurait eu des contaminants sur les échantillons utilisés à l'époque, et on le sait, durant le Moyen Âge et à la Renaissance, le suaire était présenté au public lors d'occasions spéciales, et on tenait le suaire par le pourtour, et c'est justement sur un des pourtours du suaire qu'on a prélevé les échantillons de tissus qui ont servi à la datation carbone 14. Les endroits les plus contaminés du suaire. Or, ce que les scientifiques soulignent, c'est que les analyses au carbone 14, bien sûr, ont suivi une décontamination du tissu. Mais on soutient que la décontamination de l'époque était peut-être inefficace sur certains éléments,
certains
contaminants.
Et voilà. C'est ça, il va leur faire un test.
Donc là, ils remettent en question ces analyses de 1988 en disant « basta, ce n'était pas bon ». Donc, il faudrait une nouvelle analyse au carbone 14 en utilisant les données ou les techniques de stérilisation qu'on connaît aujourd'hui pour pouvoir arriver à de nouveaux chiffres qui ou bien confirmeront l'analyse de 1988 ou bien l'infirmeront avec de nouvelles dates. Et là, bien sûr, on pourra savoir si oui ou non le linceul de Turin est bel et bien un linceul datant du 1er siècle et à ce moment-là, il pourrait avoir été l'authentique linceul du Christ.
À toutes les fois qu'on règle un problème, on a l'impression qu'on ne le règle jamais pour de vrai. Hein?
Tu sais, Bernard...
À toutes les fois qu'on apporte une réponse, là, finalement, elle n'est jamais définitive.
Ouais, quand c'est une question de foi, c'est toujours difficile de trancher directement.
Christian Page, merci et à vendredi prochain.
Absolument, ça me fait plaisir, Bernard.
Et merci à Raphaël Brouillette, Fadois Lapierre et Fred Perron qui nous ont prêté main forte cette semaine. Nous étant Maryse Duchesneau, Larry Dufresne et Alexandre Marcoux, la super équipe
de l'émission Drainville PM, qui vous salue et qui vous souhaite une bonne fin de semaine.